Henri Poincaré, Science et méthode. Livre 3, chapitre 2, la mécanique et l'optique. L'aberration. On sait en quoi consiste le phénomène de l'aberration, découvert par Bradley. La lumière, émanée d'une étoile, met un certain temps pour parcourir une lunette. Pendant ce temps, la lunette, entraînée par le mouvement de la Terre, s'est déplacée. Si donc on braquait la lunette dans la direction vraie de l'étoile, l'image se formerait au point qu'occupait la croisée des fils du réticule quand la lumière a atteint l'objectif, et cette croisée ne serait plus en ce même point quand la lumière atteindrait le plan du réticule. On serait donc conduit à dépointer la lunette pour ramener l'image sur la croisée des fils. Il en résulte que l'astronome ne pointera pas la lunette dans la direction de la vitesse absolue de la lumière, c'est-à-dire sur la position vraie de l'étoile, mais bien dans la direction de la vitesse relative de la lumière par rapport à la Terre, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle la position apparente de l'étoile. La vitesse de la lumière est connue, on pourrait donc croire que nous avons le moyen de calculer la vitesse absolue de la Terre. Je m'expliquerai tout à l'heure sur ce mot absolu. Il n'en est rien. Nous connaissons bien la position apparente de l'étoile que nous observons, mais nous ne connaissons pas sa position vraie. Nous ne connaissons la vitesse de la lumière qu'en grandeur et pas en direction. Si donc la vitesse absolue de la Terre était rectiligne et uniforme, nous n'aurions jamais soupçonné le phénomène de l'aberration. Mais elle est variable. Elle se compose de deux vitesses, la vitesse du système solaire, qui est rectiligne et uniforme, la vitesse de la Terre par rapport au Soleil, qui est variable. Si la vitesse du système solaire, c'est-à-dire si la partie constante existait seule, la direction observée serait invariable. Cette position qu'on observerait ainsi s'appelle la position apparente moyenne de l'étoile. Tenons compte maintenant à la fois des deux parties de la vitesse de la Terre, nous aurons la position apparente actuelle, qui décrit une petite ellipse autour de la position apparente moyenne. Et c'est cette ellipse qu'on observe. En négligeant des quantités très petites, nous verrons que les dimensions de cette ellipse ne dépendent que du rapport de la vitesse de la Terre par rapport au Soleil à la vitesse de la lumière, de sorte que la vitesse relative de la Terre par rapport au Soleil est seule intervenue. Halte là, toutefois. Ce résultat n'est pas rigoureux, il n'est qu'approché. Poussons l'approximation un peu plus loin. Les dimensions de l'ellipse dépendront alors de la vitesse absolue de la Terre. Comparons les grands axes de l'ellipse pour les différentes étoiles, nous aurons théoriquement, du moins, le moyen de déterminer cette vitesse absolue. Cela serait peut-être moins choquant qu'il ne semble d'abord. Il ne s'agit pas en effet de la vitesse par rapport à un vide absolu, mais de la vitesse par rapport à l'éther, que l'on regarde par définition comme étant au repos absolu. D'ailleurs, ce moyen est purement théorique. En effet, l'aberration est très petite. Les variations possibles de l'ellipse d'aberration sont beaucoup plus petites encore, et si nous regardons l'aberration comme du premier ordre, elles doivent donc être regardées comme du second ordre. Un millième de seconde environ, elles sont absolument inappréciables pour nos instruments. Nous verrons enfin plus loin pourquoi la théorie précédente doit être rejetée et pourquoi nous ne pourrions déterminer cette vitesse absolue quand même nos instruments seraient 10 000 fois plus précis. On pourrait songer à un autre moyen, et l'on y a songé en effet. La vitesse de la lumière n'est pas la même dans l'eau que dans l'air. Ne pourrait-on comparer les deux positions apparentes d'une étoile vues à travers une lunette tantôt pleine d'air, tantôt pleine d'eau? Les résultats ont été négatifs. Les lois apparentes de la réflexion et de la réfraction ne sont pas altérées par le mouvement de la Terre, ce phénomène comporte deux explications. Premièrement, on pourrait supposer que l'éther n'est pas au repos, mais qu'il est entraîné par les corps en mouvement. Il ne serait pas étonnant alors que les phénomènes de réfraction ne fussent pas altérés par le mouvement de la Terre, puisque tout, prisme, lunettes et éther, est entraîné à la fois dans une même translation. Quant à l'aberration elle-même, elle s'expliquerait par une sorte de réfraction qui se produirait à la surface de séparation de l'éther en repos dans les espaces interstellaires et de l'éther entraîné par le mouvement de la Terre. C'est sur cette hypothèse, entraînement total de l'éther, qu'est fondée la théorie de Hertz sur l'électrodynamique des corps en mouvement. Deuxièmement, Fresnel, au contraire, suppose que l'éther est au repos absolu dans le vide, en repos presque absolu dans l'air, quelle que soit la vitesse de cet air, et qu'il est partiellement entraîné par les milieux réfringents. Lorentz a donné à cette théorie une forme plus satisfaisante. Pour lui, l'éther est en repos, les électrons seuls sont en mouvement. Dans le vide, où l'éther entre seul en jeu, dans l'air, où il entre presque seul en jeu, l'entraînement est nul ou presque nul. Dans les milieux réfringents, où la perturbation est produite à la fois par les vibrations de l'éther et par celles des électrons mis en branle par l'agitation de l'éther, les ondulations se trouvent partiellement entraînées. Pour décider entre les deux hypothèses, nous avons l'expérience de Fizeau, qui a comparé, par des mesures de franges d'interférence, la vitesse de la lumière dans l'air au repos ou en mouvement, ainsi que dans l'eau au repos ou en mouvement. Ces expériences ont confirmé l'hypothèse de l'entraînement partiel de Fresnel. Elles ont été reprises avec le même résultat par Michelson. La théorie de Hertz doit donc être rejetée. Le principe de relativité. Mais si l'éther n'est pas entraîné par le mouvement de la Terre, est-il possible de mettre en évidence, par le moyen des phénomènes optiques, la vitesse absolue de la Terre, ou plutôt sa vitesse par rapport à l'éther immobile? L'expérience a répondu négativement, et cependant, on a varié les procédés expérimentaux de toutes les manières possibles. Quel que soit le moyen qu'on emploie, on ne pourra jamais déceler que des vitesses relatives. J'entends les vitesses de certains corps matériels par rapport à d'autres corps matériels. En effet, si la source de lumière et les appareils d'observation sont sur la Terre et participent à son mouvement, les résultats expérimentaux ont toujours été les mêmes, quelle que soit l'orientation de l'appareil par rapport à la direction du mouvement orbital de la Terre. Si l'aberration astronomique se produit, c'est que la source, qui est une étoile, est en mouvement par rapport à l'observateur. Les hypothèses faites jusqu'ici rendent parfaitement compte de ce résultat, si l'on néglige les quantités très petites de l'ordre du carré de l'observation. L'explication s'appuie sur la notion de temps local que je vais chercher à faire comprendre et qui a été introduite par Lorentz. Supposons deux observateurs placés l'un en A, l'autre en B, et voulant régler leur montre par le moyen de signaux optiques. Ils conviennent que B enverra un signal à A quand sa montre marquera l'heure déterminée, et A remet sa montre à l'heure au moment où il aperçoit le signal. Si l'on opérait seulement de la sorte, il y aurait une erreur systématique car, comme la lumière met un certain temps T pour aller de B en A, la montre de A va retarder d'un temps T sur celle de B. Cette erreur est aisée à corriger. Il suffit de croiser les signaux. Il faut que A envoie à son tour des signaux à B, et après ce nouveau réglage, ce sera la montre de B qui retardera d'un temps T sur celle de A. Il suffira alors de prendre la moyenne arithmétique entre les deux réglages. Mais cette façon d'opérer suppose que la lumière met le même temps pour aller de A en B ou pour revenir de B en A. Cela est vrai si les observateurs sont immobiles. Cela n'est plus vrai s'ils sont entraînés dans une translation commune, parce qu'alors A, par exemple, ira au-devant de la lumière qui vient de B, tandis que B fuira devant la lumière qui vient de A. Si donc les deux observateurs sont entraînés dans une translation commune, Et s'ils ne s'en doutent pas, leur réglage sera défectueux. Leurs montres n'indiqueront pas le même temps, chacune d'elles indiquera le temps local convenant au point où elles se trouvent. Les deux observateurs n'auront aucun moyen de s'en apercevoir. Si l'éther immobile ne peut leur transmettre que des signaux lumineux, marchant tous avec la même vitesse, et si les autres signaux qu'ils pourraient s'envoyer leur sont transmis par des milieux entraînés avec eux dans leur translation. Le phénomène que chacun d'eux observera sera soit en avance, soit en retard. Il ne se produira pas au même moment que si la translation n'existait pas. Mais comme on l'observera avec une montre mal réglée, on ne s'en apercevra pas et les apparences ne seront pas altérées. Il résulte de là que la compensation est facile à expliquer tant qu'on néglige le carré de l'aberration. Et longtemps, les expériences ont été trop peu précises pour qu'il y eût lieu d'en tenir compte. Mais un jour, Michelson a imaginé un procédé beaucoup plus délicat. Il a fait interférer des rayons qui avaient parcouru des trajets différents après s'être réfléchis sur des miroirs, chacun des trajets approchant d'un mètre et les franges d'interférence permettant d'apprécier des différences d'une fraction de millième de millimètre. On ne pouvait plus négliger le carré de l'aberration, et cependant, les résultats furent encore négatifs. La théorie demandait donc à être complétée. Et elle l'a été par l'hypothèse de Lorentz et de Fitzgerald. Ces deux physiciens supposent que tous les corps entraînés dans une translation subissent une contraction dans le sens de cette translation, tandis que leur dimension perpendiculaire à cette translation demeure invariable. Cette contraction est la même pour tous les corps. Elle est d'ailleurs très faible, d'environ 1/200 millionième pour une vitesse comme celle de la Terre. Nos instruments de mesure ne pourraient d'ailleurs la déceler, même s'ils étaient beaucoup plus précis. Les mètres avec lesquels nous mesurons subissent en effet la même contraction que les objets à mesurer. Si un corps s'applique exactement sur le mètre, quand on oriente le corps et par conséquent le mètre dans le sens du mouvement de la Terre, il ne cessera pas de s'appliquer exactement sur le mètre dans une autre orientation. Et cela, bien que le corps et le mètre aient changé de longueur en même temps que l'observation. Et précisément parce que le changement est le même pour l'un et pour l'autre. Mais il n'en est pas de même si nous mesurons une longueur non plus avec un mètre, mais par le temps que la lumière met à le parcourir. Et c'est précisément ce qu'a fait Michelson. Un corps sphérique, lorsqu'il est au repos, prendra ainsi la forme d'un ellipsoïde de révolution, aplati, lorsqu'il sera en mouvement. Mais l'observateur le croira toujours sphérique parce qu'il a subi lui-même une déformation analogue, ainsi que tous les objets qui lui servent de point de repère. Au contraire, les surfaces d'onde de la lumière qui sont restées rigoureusement sphériques lui paraîtront des ellipsoïdes allongés. Que va-t-il se passer alors? Supposons un observateur et une source entraînés ensemble dans la translation. Les surfaces d'onde émanés de la source, seront des sphères ayant pour centre les positions successives de la source. La distance de ce centre à la position actuelle de la source sera proportionnelle au temps écoulé depuis l'émission, c'est-à-dire au rayon de la sphère. Toutes ces sphères sont donc homothétiques l'une de l'autre par rapport à la position actuelle de la source. Mais pour notre observateur, à cause de la contraction, toutes ces sphères paraîtront des ellipsoïdes allongés. Et tous ces ellipsoïdes seront encore homothétiques par rapport au point S. L'excentricité de tous ces ellipsoïdes est la même et dépend seulement de la vitesse de la Terre. Nous choisirons la loi de contraction de façon que le point S soit le foyer de la section méridienne de l'ellipsoïde. Cette fois, la compensation est rigoureuse et c'est ce qui explique l'expérience de Michelson. Je dis plus haut que d'après les théories ordinaires, les observations de l'aberration astronomique pourraient nous faire connaître la vitesse absolue de la Terre, si nos instruments étaient 1000 fois plus précis. Il me faut modifier cette conclusion. Oui, les angles observés seraient modifiés par l'effet de cette vitesse absolue, mais les cercles divisés dont nous nous servons pour mesurer les angles serait déformée par la translation. Elle deviendrait des ellipses. Il en résulterait une erreur sur l'angle mesuré, et cette erreur seconde compenserait exactement la première. Cette hypothèse de Lorentz et Fitzgerald paraîtra au premier abord fort extraordinaire. Tout ce que nous pouvons dire pour le moment en sa faveur, c'est qu'elle n'est que la traduction immédiate du résultat expérimental de Michelson si l'on définit les longueurs par les temps que la lumière met à les parcourir. Quoi qu'il en soit, il est impossible d'échapper à cette impression que le principe de relativité est une loi générale de la nature, qu'on ne pourra jamais, par aucun moyen imaginable, mettre en évidence que des vitesses relatives, et j'entends par là non pas seulement les vitesses des corps par rapport à l'éther, mais les vitesses des corps les uns par rapport aux autres. Trop d'expériences diverses ont donné des résultats concordants pour qu'on ne se sente pas tenté d'attribuer à ce principe de relativité une valeur comparable à celle du principe d'équivalence, par exemple. Il convient en tout cas de voir à quelles conséquences nous conduirait cette façon de voir et de soumettre ensuite ces conséquences au contrôle de l'expérience. Le principe de réaction. Voyons ce que devient dans la théorie de Lorentz le principe de l'égalité de l'action et de la réaction. Voilà un électron A qui entre en mouvement pour une cause quelconque. Il produit une perturbation dans l'éther. Au bout d'un certain temps, cette perturbation atteint un autre électron B qui sera dérangé de sa position d'équilibre. Dans ces conditions, il ne peut y avoir égalité entre l'action et la réaction, au moins si l'on ne considère pas l'éther, mais seulement les électrons qui sont seuls observables, puisque notre nature est formée d'électrons. En effet, c'est l'électron A qui a dérangé l'électron B. Alors même que l'électron B réagirait sur A, cette réaction pourrait être égale à l'action, mais elle ne saurait en aucun cas être simultanée, puisque l'électron B ne pourrait entrer en mouvement qu'après un certain temps nécessaire pour la propagation. Si l'on soumet le problème à un calcul plus précis, on arrive au résultat suivant. Supposons un excitateur de Hertz placé au foyer d'un miroir parabolique auquel il est lié mécaniquement. Cet excitateur émet des ondes électromagnétiques et le miroir renvoie toutes ces ondes dans la même direction. L'excitateur va donc rayonner de l'énergie dans une direction déterminée. Eh bien, le calcul montre que l'excitateur va reculer comme un canon qui a envoyé un projectile. Dans le cas du canon, le recul est le résultat naturel de l'égalité de l'action et de la réaction. Le canon recule parce que le projectile sur lequel il a agi réagit sur lui. Mais ici, il n'en est plus de même. Ce que nous avons envoyé au loin, ce n'est plus un projectile matériel, c'est de l'énergie. Et l'énergie n'a pas de masse. Il n'y a pas de contrepartie. Et au lieu d'un excitateur, nous aurions pu considérer tout simplement une lampe avec un réflecteur concentrant ses rayons dans une seule direction. Il est vrai que si l'énergie émanée par l'excitateur ou la lampe vient à atteindre un objet matériel, cet objet va subir une poussée mécanique comme s'il avait été atteint par un projectile véritable. Et cette poussée sera égale au recul de l'excitateur et de la lampe, s'il ne s'est pas perdu d'énergie en route et si l'objet absorbe cette énergie en totalité. On serait donc tenté de dire qu'il y a encore compensation entre l'action et la réaction. Mais cette compensation, alors même qu'elle est complète, est toujours retardée. Elle ne se produit jamais si la lumière, après avoir quitté la source, erre dans les espaces interstellaires sans jamais rencontrer un corps matériel. Elle est incomplète si le corps qu'elle frappe n'est pas parfaitement absorbant. Ces actions mécaniques sont-elles trop petites pour être mesurées ou bien sont-elles accessibles à l'expérience ? Ces actions ne sont autre chose que celles qui sont dues aux pressions de Maxwell-Bartoli. Maxwell avait prévu ces pressions par des calculs relatifs à l'électrostatique et au magnétisme. Bartoli était arrivé au même résultat par des considérations de thermodynamique. C'est de cette façon que s'expliquent les queues des comètes. De petites particules se détachent du noyau de la comète, elles sont frappées par la lumière du soleil qui les repousse, comme ferait une pluie de projectiles venant du soleil. La masse de ces particules est tellement petite que cette répulsion l'emporte sur l'attraction newtonienne. Elles vont donc former les queues en s'éloignant du soleil. La vérification expérimentale directe n'était pas aisée à obtenir. La première tentative a conduit à la construction du radiomètre. Mais cet appareil tourne à l'envers, dans le sens opposé du sens théorique. Et l'explication de sa rotation, découverte depuis, est toute différente. On a réussi enfin en poussant plus loin le vide, d'une part, et d'autre part en ne noircissant pas l'une des faces des palettes et dirigeant un faisceau lumineux sur l'une des faces. Les effets radiométriques et les autres causes perturbatrices sont éliminés par une série de précautions minutieuses, et l'on obtient une déviation qui est fort petite, mais qui est, paraît-il, conforme à la théorie. Les mêmes effets de la pression de Maxwell-Bartholy sont prévus également par la théorie de Hertz, dont nous avons parlé plus haut, et par celle de Lorentz. Mais il y a une différence. Supposons que l'énergie, sous forme de lumière par exemple, aille d'une source lumineuse à un corps quelconque, à travers un milieu transparent. La pression de Maxwell-Bartholy agira, non seulement sur la source au départ, et sur le corps éclairé à l'arrivée, mais sur la matière du milieu transparent qu'elle traverse. Au moment où l'onde lumineuse atteindra une nouvelle région de ce milieu, cette pression poussera en avant la matière qui s'y trouve répandue et la ramènera en arrière quand l'onde quittera cette région, de sorte que le recul de la source a pour contrepartie la marche en avant de la matière transparente qui est au contact de cette source. Un peu plus tard, le recul de cette même matière a pour contrepartie la marche en avant de la matière transparente qui se trouve un peu plus loin, et ainsi de suite. Seulement, la compensation est-elle parfaite? L'action de la pression Maxwell-Bartholy sur la matière du milieu transparent est-elle égale à sa réaction sur la source, et cela quelle que soit cette matière? Ou bien, cette action est-elle d'autant plus petite que le milieu est moins réfringent et plus raréfié pour devenir nul dans le vide? Si l'on admettait la théorie de Hertz, qui regarde la matière comme mécaniquement liée à l'éther, de façon que l'éther soit entraîné entièrement par la matière, il faudrait répondre oui à la première question et non à la seconde. Il y aurait alors compensation parfaite, comme l'exige le principe de l'égalité de l'action et de la réaction, même dans les milieux les moins réfringents, même dans l'air, même dans le vide interplanétaire, où il suffirait de supposer un reste de matière, si subtil soit-il. Si l'on admet au contraire la théorie de Lorentz, la compensation toujours imparfaite est insensible dans l'air et devient nulle dans le vide. Nous avons vu plus haut que l'expérience de Fizeau ne permet pas de conserver la théorie de Hertz, il faut donc adopter la théorie de Lorentz et par conséquent renoncer au principe de réaction. Conséquences du principe de relativité. Nous avons vu plus haut les raisons qui portent à regarder le principe de relativité comme une loi générale de la nature. Voyons à quelles conséquences nous conduirait ce principe si nous le regardions comme définitivement démontré. D'abord, il nous oblige à généraliser l'hypothèse de Lorentz-Fitzgerald sur la contraction de tous les corps dans le sens de la translation. En effet, nous devrons étendre cette hypothèse aux électrons eux-mêmes. Abraham considérait ces électrons comme sphériques et indéformables. Il nous faudra admettre que ces électrons sphériques, quand ils sont au repos, subissent la contraction de Lorentz lorsqu'ils sont en mouvement et prennent alors la forme d'ellipsoïdes aplatis. Cette déformation des électrons va influer sur leurs propriétés mécaniques. En effet, j'ai dit que le déplacement de ces électrons chargés est un véritable courant de convection, et que leur inertie apparente est due à la self-induction de ce courant, exclusivement en ce qui concerne les électrons négatifs. Exclusivement ou non, nous n'en savons rien encore pour les électrons positifs. Eh bien, la déformation des électrons, déformation qui dépend de leur vitesse, va modifier la distribution de l'électricité à leur surface, par conséquent l'intensité du courant de convection qu'ils produisent, par conséquent les lois suivant lesquelles la self-induction de ce courant variera en fonction de la vitesse. À ce prix, la compensation sera parfaite et conforme aux exigences du principe de relativité, mais cela à deux conditions. Premièrement, que les électrons positifs n'aient pas de masse réelle, mais seulement une masse fictive électromagnétique, ou tout au moins que leur masse réelle, si elle existe, ne soit pas constante et varie avec la vitesse suivant les mêmes lois que leur masse fictive. Deuxièmement, que toutes les forces soient d'origine électromagnétique, ou tout au moins qu'elles varient avec la vitesse suivant les mêmes lois que les forces d'origine électromagnétique. C'est encore Lorentz qui a fait cette remarquable synthèse. Arrêtons-nous un instant et voyons ce qui en découle. D'abord, il n'y a plus de matière, puisque les électrons positifs n'ont plus de masse réelle, ou tout au moins plus de masse réelle constante. Les principes actuels de notre mécanique, fondés sur la constance de la masse, doivent donc être modifiés. Ensuite, il faut chercher une explication électromagnétique de toutes les forces connues, en particulier de la gravitation, ou tout au moins modifier la loi de la gravitation de telle façon que cette force soit altérée par la vitesse de la même façon que les forces électromagnétiques. Nous reviendrons sur ce point. Tout cela paraît au premier abord un peu artificiel. En particulier, cette déformation des électrons semble bien hypothétique, mais on peut présenter la chose autrement, de façon à éviter de mettre cette hypothèse de la déformation à la base du raisonnement. Considérons les électrons comme des points matériels et demandons-nous comment doit varier leur masse en fonction de la vitesse pour ne pas contrevenir au principe de relativité. Ou plutôt encore, demandons-nous quelle doit être leur accélération sous l'influence d'un champ magnétique ou électrique, pour que le principe ne soit pas violé et qu'on retombe sur les lois ordinaires en supposant la vitesse très faible. Nous trouverons que les variations de cette masse ou de ses accélérations doivent se passer comme si l'électron subissait la déformation de Lorentz. L'expérience de Kaufmann. Nous voilà donc en présence de deux théories, l'une où les électrons sont indéformables, c'est celle d'Abraham, l'autre où ils subissent la déformation de Lorentz. Dans les deux cas, leur masse croît avec leur vitesse pour devenir infinie quand cette vitesse devient égale à celle de la lumière. Mais la loi de la variation n'est pas la même. La méthode employée par Kaufmann pour mettre en évidence la loi de variation de la masse semble donc nous donner un moyen expérimental de décider entre les deux théories. Malheureusement, ses premières expériences n'étaient pas assez précises pour cela. Aussi a-t-il cru devoir les reprendre avec plus de précaution et en mesurant avec grand soin l'intensité des champs. Sous leur forme nouvelle, elles ont donné raison à la théorie d'Abraham. Le principe de relativité n'aurait donc pas la valeur rigoureuse qu'on était tenté de lui attribuer. On n'aurait plus aucune raison de croire que les électrons positifs sont dénués de masse réelle comme les électrons négatifs. Toutefois, avant d'adopter définitivement cette conclusion, un peu de réflexion est nécessaire. La question est d'une telle importance qu'il serait à désirer que l'expérience de Kaufmann fût reprise par un autre expérimentateur. Malheureusement, cette expérience est fort délicate et ne pourra être menée à bien que par un physicien de la même habileté que M. Kaufmann. Toutes les précautions ont été convenablement prises et l'on ne voit pas bien quelle objection on pourrait faire. Il y a cependant un point sur lequel je désirais attirer l'attention, c'est sur la mesure du champ électrostatique, mesure d'où tout dépend. Ce champ a été produit entre les deux armatures d'un condensateur et entre ces armatures, on avait dû faire un vide extrêmement parfait afin d'obtenir un isolement complet. On a mesuré alors la différence de potentiel des deux armatures et l'on a obtenu le champ en divisant cette différence par la distance des armatures. Cela suppose que le champ est uniforme. Cela est-il certain? Ne peut-il se faire qu'il y ait une chute brusque de potentiel dans le voisinage d'une des armatures, de l'armature négative par exemple? Il peut y avoir une différence de potentiel au contact entre le métal et le vide. Et il peut se faire que cette différence ne soit pas la même du côté positif et du côté négatif. Ce qui me porterait à le croire, ce sont les effets de soupape électrique entre mercure et vide. Quelque faible que soit la probabilité qu'il en soit ainsi, il me semble qu'il y ait lieu d'en tenir compte. Le principe d'inertie. Dans la nouvelle dynamique, le principe d'inertie est encore vrai, c'est-à-dire qu'un électron isolé aura un mouvement rectiligne et uniforme. Du moins, on s'accorde généralement à l'admettre. Cependant, Lindemann a fait des objections à cette façon de voir. Je ne veux pas prendre parti dans cette discussion que je ne puis exposer ici à cause de son caractère trop ardu. Il suffirait en tout cas de légères modifications à la théorie pour se mettre à l'abri des objections de Lindemann. On sait qu'un corps plongé dans un fluide éprouve, quand il est en mouvement, une résistance considérable, mais c'est parce que nos fluides sont visqueux. Dans un fluide idéal, parfaitement dépourvu de viscosité, le corps agiterait derrière lui une poupe liquide, une sorte de sillage. Au départ, il faudrait un grand effort pour le mettre en mouvement, puisqu'il faudrait ébranler non seulement le corps lui-même, mais le liquide de son sillage. Mais une fois le mouvement acquis, il se perpétuerait sans résistance, puisque le corps, en s'avançant, transporterait seulement avec lui la perturbation du liquide, sans que la force vive totale de ce liquide augmentât. Tout se passerait donc comme si son inertie avait augmenté. Un électron, s'avançant dans l'éther, se comporterait de la même manière. Autour de lui, l'éther serait agité, mais cette perturbation accompagnerait le corps dans son mouvement, de sorte que pour un observateur entraîné avec l'électron, les champs électriques et magnétiques qui accompagnent cet électron paraîtraient invariables et ne pourraient changer que si la vitesse de l'électron venait à varier. Il faudrait donc un effort pour mettre l'électron en mouvement, puisqu'il faudrait créer l'énergie de ces champs. Au contraire, une fois le mouvement acquis, aucun effort ne serait nécessaire pour le maintenir, puisque l'énergie créée n'aurait plus qu'à se transporter derrière l'électron comme un sillage. Cette énergie ne peut donc augmenter l'inertie de l'électron comme l'agitation du liquide augmente celle du corps plongé dans un fluide parfait. Et même les électrons négatifs, tout au moins, n'ont pas d'autre inertie que celle-là. Dans l'hypothèse de Lorentz, la force vive, qui n'est autre que l'énergie de l'éther, n'est pas proportionnelle à V carré. Sans doute, si V est très faible, la force vive est sensiblement proportionnelle à V carré. La quantité de mouvement est sensiblement proportionnelle à V. Les deux masses sensiblement constantes et égales entre elles. Mais quand la vitesse tend vers la vitesse de la lumière, la force vive, la quantité de mouvement et les deux masses croissent au-delà de toute limite. Dans l'hypothèse d'Abraham, les expressions sont un peu plus compliquées, mais ce que nous venons de dire subsiste dans ses traits essentiels. Ainsi, la masse, la quantité de mouvement, la force vive deviennent infinies quand la vitesse est égale à celle de la lumière. Il en résulte qu'aucun corps ne pourra atteindre par aucun moyen une vitesse supérieure à celle de la lumière. Et en effet, à mesure que sa vitesse croît, sa masse croît, de sorte que son inertie oppose à tout nouvel accroissement de vitesse un obstacle de plus en plus grand. Une question se pose alors. Admettons le principe de relativité. Un observateur en mouvement ne doit pas avoir le moyen de s'apercevoir de son propre mouvement. Si donc aucun corps dans son mouvement absolu ne peut dépasser la vitesse de la lumière, ne peut en approcher autant qu'on veut, il doit en être de même en ce qui concerne son mouvement relatif par rapport à notre observateur. Et alors, on pourrait être tenté de raisonner comme il suit. L'observateur peut atteindre la vitesse de 200 000 km. Le corps, dans son mouvement relatif par rapport à l'observateur, peut atteindre la même vitesse. Sa vitesse sera de 400 000 km, ce qui est impossible puisque c'est un chiffre supérieur à la vitesse de la lumière. Ce n'est là qu'une apparence qui s'évanouit quand on tient compte de la façon dont Lorentz évalue les temps locaux. L'onde d'accélération. Quand un électron est en mouvement, il produit dans l'éther qui l'entoure une perturbation. Si son mouvement est rectiligne et uniforme, cette perturbation se réduit au sillage dont nous avons parlé au chapitre précédent, mais il en est plus de même si le mouvement est curviligne ou varié. La perturbation peut alors être regardée comme la superposition de deux autres auxquelles Langevin a donné les noms d'onde de vitesse et d'onde d'accélération. L'onde de vitesse n'est autre chose que le sillage qui se produit dans le mouvement uniforme. Quant à l'onde d'accélération, c'est une perturbation tout à fait analogue aux ondes lumineuses qui part de l'électron au moment où il subit une accélération et qui se propage ensuite par ondes sphériques successives avec la vitesse de la lumière. D'où cette conséquence. Dans un mouvement rectiligne et uniforme, l'énergie se conserve intégralement. Mais dès qu'il y a une accélération, il y a perte d'énergie qui se dissipe sous forme d'ondes lumineuses et s'en va à l'infini à travers l'éther. Toutefois, les effets de cette onde d'accélération, en particulier la perte d'énergie correspondante, sont négligeables dans la plupart des cas, c'est-à-dire non seulement dans la mécanique ordinaire ou dans le mouvement des corps célestes, mais même dans les rayons du radium où la vitesse est très grande, sans que l'accélération le soit. On peut donc se borner à appliquer les lois de la mécanique en écrivant que la force est égale au produit de l'accélération par la masse. Cette masse, toutefois, variant avec la vitesse d'après les lois exposées plus haut, on dit que le mouvement est quasi stationnaire. Il n'en serait pas de même dans tous les cas où l'accélération est grande et dont les principaux sont les suivants. Dans les gaz incandescents, certains électrons prennent un mouvement oscillatoire de très haute fréquence. Les déplacements sont très petits, leurs vitesses sont finies et les accélérations très grandes. L'énergie se communique alors à l'éther et c'est pour cela que ces gaz rayonnent de la lumière de même période que les oscillations de l'électron. Deuxièmement, inversement, quand un gaz reçoit de la lumière, ces mêmes électrons sont mis en branle avec de fortes accélérations et ils absorbent de la lumière. Troisièmement, dans l'excitateur de Hertz, les électrons qui circulent dans la masse métallique subissent, au moment de la décharge, une brusque accélération et prennent ensuite un mouvement oscillatoire de haute fréquence. Il en résulte qu'une partie de l'énergie rayonne sous forme d'onde hertzienne. Quatrièmement, dans un métal incandescent, les électrons enfermés dans ce métal sont animés de grande vitesse. En arrivant à la surface du métal, qu'ils ne peuvent franchir, ils se réfléchissent et subissent ainsi une accélération considérable. C'est pour cela que le métal émet de la lumière. C'est ce que j'ai déjà expliqué au chapitre 10, numéro 4. Les détails des lois de l'émission de la lumière par les corps noirs sont parfaitement expliqués par cette hypothèse. Cinquièmement, enfin, quand les rayons cathodiques viennent frapper l'anticathode, les électrons négatifs qui constituent ces rayons et qui sont animés de très grande vitesse sont brusquement arrêtés. Par suite de l'accélération qu'ils subissent ainsi, ils produisent des ondulations dans l'éther. Ce serait là, d'après certains physiciens, l'origine des rayons Röntgen, qui ne seraient autre chose que des rayons lumineux de très courte longueur d'onde.